Les mines et la métallurgie en Savoie dans la première moitié du 19e siècle. Eh bien, c'est un sujet très vaste. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. On peut dire qu'il n'est pas exagéré de qualifier la Savoie de cette époque, en ce qui concerne les mines et la métallurgie, de véritables gruyères. Les mines, en effet, parsèment le sol savoyard. On a l'impression d'un saupoudrage qui s'effectue sur tout le territoire de la Savoie. Bien sûr, il ne faut pas que ce nombre pléthorique de mines entraîne une vue trop optimiste sur l'importance des industries. Nous ne sommes pas dans le bassin du Nord au XIXe siècle finissant, et il ne faut pas voir dans ces mines des descriptions grandioses que l'on peut trouver par exemple dans le terminal de Zola. En revanche, si certaines idées du monde des mines se brisent, nous ne devons pas pour autant succomber à une tentation misérabiliste. En effet, il y a de nombreuses mines que l'on peut qualifier de mines paysannes, c'est-à-dire de petites mines où le directeur est à la fois est aussi le travailleur, souvent le seul, un villageois chanceux d'avoir trouvé sur sa propriété ou sur les terrains de la commune un filon. Et le duché de Savoie peut se targuer, en effet, de posséder de bons gisements, dont l'exploitation remonte quelquefois très loin dans l'histoire, et qui était assurée, au XIXe siècle, par de bons hommes d'affaires. Nous y reviendrons. Si l'on s'intéresse un petit peu à cette histoire des mines et de la métallurgie, on peut encore voir certains sites qu'on pourrait qualifier de vestiges, parce que vraiment, ils ne sont plus en très bon état. Ainsi, je me suis rendu à Saint-Georges-d'Urtière, et à Saint-Georges-d'Urtière, en Maurienne, au-dessus d'Aiguebelle, on peut encore voir certaines fosses. Et là, j'ai découvert le travail très éprouvant des enfants. Les enfants travaillaient à Saint-Georges-d'Urtière, et ils descendaient le minerai dans des sentiers très raides. Et pour avoir pratiqué ces sentiers, je peux ici témoigner du travail pénible de ces enfants à l'époque. À Entreverne, la mine d'Entreverne, qui se situe sur la rive ouest du lac d'Annecy, eh bien, cette mine illustre parfaitement la difficulté des transports. La mine est perdue en forêt. Et d'ailleurs, en 1940, on va la rouvrir. Et on va mettre un téléphérique pour aller chercher le minerai. À Mako, à la montagne de la Plagne, eh bien, cette mine illustre la difficulté pour une mine perchée sur un promontoire aussi élevé d'acheminer son minerai jusqu'au laverie. À Cran, enfin, à Cran-Gevrier, à côté d'Annecy, on peut remarquer le rôle fondamental de l'eau avec la prise d'eau sur le Thiou qui alimente l'usine de Cran. Alors cette étude, j'ai pu la faire grâce à un homme qui s'appelle Despine. Charles-Marie Joseph Despine est né à Annecy en 1792 et il est mort à Turin en 1859. C'est un polytechnicien, un élève de l'école des mines de Paris, et il entre en 1823 dans le corps français des mines, puis dans le corps royal des mines du royaume de Piémont-Sardaigne. À 32 ans, il devient directeur des établissements royaux des mines de la Savoie et directeur de l'école pratique des mines de Moutier. Il accède en 1828 au poste d'inspecteur et en 1835 à celui d'inspecteur général des mines du royaume. Il finira sa vie comme député au Parlement de Turin. C'est un esprit scientifique et rigoureux. Il a réuni vraiment une masse imposante de documents sur les mines. Son travail était considérable au sein de l'administration minière et il est à l'origine notamment de la loi Sarde, très importante, sur laquelle je reviendrai, du 30 juin 1840. Il intervient inlassablement auprès des ministres, qui le plus souvent ratifient ses propositions. J'ai en tout, et je parle des mines et des usines de fer et de fonte, c'est-à-dire les hauts fourneaux, les affineries, j'ai en tout localisé 144 mines et usines de fer et de fonte sur tout l'ensemble de la Savoie. Ce sont des mines et des usines qui sont dignes d'intérêt pour l'administration. Mais en tout, elles sont infiniment plus nombreuses. Ainsi, en Tarentaise, j'ai relevé en comptant juste les mines, sans parler des carrières de plâtre, 136 mines. On imagine aisément l'ensemble des mines qui couvrent la Savoie à cette époque, si l'on compte les provinces de Maurienne, de Tarentaise, de Savoie propre, de Haute-Savoie, de Genevois, du Chablais et du Faucigny. Alors, si on comptabilise en plus toutes ces mines non déclarées, ces mines illégales, on aboutit à un chiffre énorme. En ce qui concerne les hauts fourneaux et les affineries, ils sont plus concentrés sur le sol savoyard et déterminent, on peut le dire, de véritables sites industriels. Plusieurs raisons. Tout d'abord, la recherche d'un bon réseau routier, ce n'est pas toujours évident à l'époque. Une position moyenne par rapport au site d'où l'on tire les combustibles et au lieu d'où l'on extrait le minerai, les matières premières. Et d'autre part, eh bien, n'importe qui ne peut pas construire des hauts fourneaux et des affineries. Il y a une exigence du point de vue des capitaux, ce qui explique aussi que ces usines ne soient pas dispersées et qu'elles ne soient pas nombreuses. Si l'on se livre un petit historique des mines et de la métallurgie, on peut dire que l'exploitation des mines en Savoie remonte principalement à l'époque romaine. On a une première trace de cette exploitation des mines au XVIIe et XVIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des métallurgistes de la civilisation du Rhône qui étaient venus en Tarentaise spécialement pour exploiter le minerai de cuivre. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les travaux des mines et des entreprises métallurgiques vont sans cesse s'accroître. Trois causes sont dues à cela. Tout d'abord, la connaissance de plus en plus complète de nos montagnes. Ensuite, l'utilisation de la poudre. Il faut bien imaginer des masses imposantes de rochers que, auparavant, on devait attaquer au pic. Et enfin, le rôle éminent de l'industrie privée qui va avoir un effet d'entraînement très important sur l'État. Entre parenthèses, le plus ancien titre que nous possédions de l'exploitation des mines en Savoie remonte à 1289. C'est Amédée V de Savoie qui a confié toutes les mines métallifères du duché de Savoie à un nommé Béric ou Bérix. Au XVIIIe siècle, la mine des Alus en Tarentaise, c'est une mine de plomb argentifère. C'est une mine très importante. Elle aura disparu quand s'ouvrira notre période. Elle a 50 ouvriers. Mais les travaux sont mal conduits, le rendement est faible du fait de l'incurie des exploitants qui ignorent totalement les méthodes de fondage. Mais par-dessus tout, ce qui va entraîner son déclin, ce sont les divisions entre les actionnaires. Son échec, surtout, illustre les difficultés des mines de montagne avec le climat qui est très rigoureux et l'éloignement. Le deuxième exemple montre l'existence de concessions jusqu'alors très importantes, jusqu'en 1792, c'est-à-dire jusqu'à l'occupation française et sa contrepartie, l'application des idées révolutionnaires. Et là, jusqu'alors, de grands seigneurs fonciers affermaient, louaient toutes les mines qui pouvaient se trouver sur leur territoire à une seule compagnie. On ne reverra pas ça au XIXe siècle. Ainsi, en 1782, la collégiale Saint-Jacques à Sallanches loue toutes les mines du Haut-Faucigny pour un temps illimité. Ces mines sont affermées des personnages de la plus haute aristocratie, parmi lesquels je ne citerai que le duc de Clermont-Tonnerre, qui était pair de France, lieutenant général des armées et commandant en chef dans le Dauphiné. Avant eux, même Madame de Varins avait, elle aussi, s'était lancée dans l'exploitation minière et métallurgique, peut-être pour tromper son inactivité quelquefois, mais ça ne lui apportait que des ennuis, que des insuccès. Des mines sont nées avec le XVIIIe siècle, que l'on va retrouver au XIXe, et parmi celles-ci, la mine très importante de Pezet, en Tarentaise, une mine de plomb argentifère. On dit qu'elle a été découverte par un berger en 1714. Deux Anglais vont ensuite prendre l'exploitation en main. Il s'agit de De Rives et Capson. En 1759, le marquis de Chabot de Saint-Maurice et son fermier, le baron de la Tour, vont reprendre les travaux et vont évincer la compagnie anglaise. Puis, c'est la société savoyarde qui vient s'implanter sur le site. Elle est créée par le baron de la Tour et elle poursuit son activité jusqu'en 1792, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des troupes françaises. Donc, une exploitation des mines fort ancienne en Savoie, même s'il faut attendre la fin du XVIIIe, voire le milieu du XIXe siècle, pour qu'une exploitation rationnelle des mines de charbon ne commence vraiment. Si l'on se penche sur les conditions économiques, on s'aperçoit qu'un protectionnisme strict est appliqué à l'entrée du royaume. Si bien que la Savoie est isolée, elle est séparée du Piémont par des barrières rocheuses, elle est séparée de la France par des barrières douanières prohibitives. Et ce protectionnisme frileux a vu comme conséquence de rendre la vie plus paisible aux établissements savoyards. Certains vivotaient. Et si bien que beaucoup n'ont pas effectué les recherches de rentabilité nécessaires. Si bien qu'à partir de 1842, et plus encore à partir de 1848, date à laquelle Charles-Albert Ier commence à appliquer une politique plus libérale, les frontières vont commencer à s'ouvrir de plus en plus. Et ça, c'est l'arrivée de plus en plus massive des concurrents. Avec ces concurrents, beaucoup d'industries vont péricliter. Par exemple, nous possédons deux recensements, celui de 1838 et celui de 1855. Entre ces deux dates, il y a une diminution de plus de la moitié des hauts fourneaux savoyards. De 14 hauts fourneaux, on passe à 5. À ce phénomène de la concurrence toute nouvelle, s'est ajouté celui de la rareté, celui de la cherté du combustible. Fort heureusement, malgré tous ces événements, il n'y a pas eu d'incidence notable sur la production qui n'a pratiquement pas varié. Cela est dû aux techniques que l'on a rénovées. Un autre exemple, en 1855, 52 mines sont répertoriées sur le sol savoyard. Mais seulement 27 d'entre elles sont en activité, si bien qu'il y a le chômage de presque la moitié de ces usines. Cette brèche effectuée dans le mur épais du protectionnisme sarde, eh bien, elle ne va pas permettre à tous les principes libéraux du capitalisme de s'y engouffrer. Ainsi, on note une réticence à l'égard de l'implantation d'étrangers qui viennent avec leurs entreprises. Des réticences institutionnelles, le Code civil, on trouve des articles dans le Code civil qui sont réticents, des avis de l'administration. Puis il y a une suffisance économique des capitaux savoyards, ne demande en fait qu'à s'investir à cette période. Et surtout l'hostilité de certains industriels savoyards. Par contre, il existe des exceptions que l'on accorde, des dérogations que l'on accorde à des étrangers. Et par exemple, je vais vous raconter une expérience malheureuse qui s'est produite avec la participation d'un des plus grands noms de la finance française du XIXe siècle. Il s'agit du banquier Émile Pereire du Crédit Immobilier. Il est un des actionnaires de la société Babonneau qui s'est créée à Paris en 1856. Et cette société commence ses exploitations en France et en Suisse dans des gisements à ciel ouvert. Puis elle acquiert des mines d'asphalte en Savoie, notamment sur le Rhône, à Challonges, sur les Us, sur le Fier. Mais tout d'un coup, elle les abandonne, car elle considère que son approvisionnement en asphalte est suffisant. Alors c'est le chômage. C'est le chômage catastrophique pour la région. Et les mines d'asphalte qui avaient échappé au contrôle de la société Babonneau vont avoir une existence très difficile. Car cette société, n'oublions pas que les frontières sont ouvertes, possède des comptoirs à Lyon, à Paris, à Hambourg, à Strasbourg, à Londres, et des contrats avec les chemins de fer. En ce qui concerne l'hostilité des industriels savoyards, j'ai eu la chance de lire une lettre écrite par le comte de Fortis, qui était un exploitant savoyard. Et il écrit en 1838 à Despine. Voici ce qu'il dit. « Le sieur Reynaud, que j'ai signalé dans une de mes lettres au ministre, comme ayant pris des mesures pour s'emparer de la mine d'asphalte en Savoie, est un agent de ces compagnies que l'on appelle en France des bandes noires, pour qualifier leur génie de spéculation. C'est un de ces audacieux chevaliers d'industrie que l'on voit s'élancer du sein de Paris dans les provinces et les pays limitrophes pour y faire des dupes. C'est absolument un homme ignoble, se disant ingénieur architecte et néanmoins tout à fait inconnu dans ce corps. En somme, c'est encore une économie très cloisonnée qui caractérise la Savoie à cette époque. Cela se vérifie notamment par la diversité des unités de poids. On parle de la production en quintaux, en quintaux métriques, en rubes, en hectolitres, en douzaines de bennes, en kilos, etc. On peut pas voir l'histoire des mines et de la métallurgie en Savoie sans se pencher un petit peu sur des dispositions législatives. Je ne vous parlerai que de l'édit du 30 juin 1840. C'est l'aboutissement de la législation sarde en cette matière, et étant donné que son principe qui est libéral s'identifie à celui de la loi antérieure de 1810, on peut dire que cet édit domine toute l'exploitation des mines en Savoie à cette période, une parenthèse se situant entre 1822 et 1840. Que dire en gros de cet édit ? Il rétablit la notion de propriété privée pour la mine. Mais un des mérites de l'édit est la grande attention portée aux dangers éventuels des exploitations. Ainsi, il précise, lorsque la sûreté des personnes ou celle des exploitations pourrait être compromise par quelque cause que ce soit, l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport à l'intendant, et proposera les mesures qu'il croira propres à faire cesser les causes du danger. L'exploitant doit tenir à la disposition des ouvriers des médicaments et doit payer un chirurgien dont la présence est indispensable. Mais très souvent, le chirurgien fait la navette entre plusieurs établissements. Les petits établissements n'ont pas toujours les moyens de payer le chirurgien. Il est indéniable qu'une certaine sollicitude du pouvoir s'exprime à l'égard des ouvriers des mines, tout au moins par les règlements. C'est le paternalisme officiel. Tout n'est pas parfait dans la législation. Par exemple, le livret ouvrier est institué. Le patron note ses appréciations sur l'ouvrier et tout employeur futur va s'y référer pour l'embaucher. Puis, le travail n'est interdit qu'aux enfants de moins de 10 ans. À partir de 10 ans, on voit des enfants qui travaillent dans les mines. En ce qui concerne... Voici, ça c'était la première partie sur les conditions générales. Je vais maintenant passer à l'exploitation des mines en Savoie. Et tout d'abord, vous parler brièvement, sans vous accabler de chiffres, de la production. Tout d'abord, le minerai de fer. La part de la Savoie dans le royaume de Piémont-Sardaigne est très importante. Et cela est essentiellement dû à la mine, je l'ai dit tout à l'heure, de Saint-Georges-d'Urtières. Dans le Genevois, autour d'Annecy, se situe les deux centres les plus productifs après Saint-Georges-d'Urtières. Il s'agit de Cuva, qui se situe au nord d'Annecy, à 10 km à peu près, et de Saint-Joriot. En Savoie propre, c'est-à-dire autour de Chambéry, c'est la mine de Presles, vers La Rochette. Dans le Faucigny, celle de Sixte. L'idéal dans les conditions d'extraction est représenté par Saint-Georges-d'Urtières. Ailleurs, on a des problèmes plus ou moins graves. Par exemple, soit que le minerai de fer est mélangé à de la pyrite, à d'autres minerais, soit que les dispositions des couches rendent difficile l'extraction du minerai. On peut voir aussi des mines comme Saint-Alban des Urtières, qui ont de bonnes conditions naturelles, mais qui sont contrariées par des querelles juridiques. De ce minerai de fer, on va le fondre, et 6 qualités différentes de fonte sortent des hauts fourneaux savoyards. Les matières premières utilisées proviennent tout d'abord, et c'est tout à fait normal, des mines de fer qui sont les plus proches. Mais souvent, on fait appel aussi aux minerais d'une grande mine, de la grande mine. Saint-Georges-d'Urtières, par exemple. Pourquoi ? Soit pour compenser une qualité qui est quelquefois pas très bonne, du minerai local, soit pour compenser des quantités qui sont quelquefois pas suffisantes. En plus, certains propriétaires de hauts fourneaux possèdent des fosses à Saint-Georges-d'Urtières et ils utilisent le minerai qu'ils extraient. Si l'on prend un exemple, le très puissant haut fourneau de Gier, se trouve au sud du lac d'Annecy. Il rassemble plusieurs atouts pour son approvisionnement. Tout d'abord, il appartient à la famille Frère Jean, j'y reviendrai. Ceux-ci possèdent les deux mines de fer les plus proches du Haut-Fourneau de Gier, Cuva et Saint-Joriot. Et ils en tirent une partie de leur matière première. Mais les frères Jean ont aussi des fosses à Saint-Georges-d'Urtière. Saint-Georges-d'Urtière, et Gier, c'est quand même loin pour l'époque. Et ils font appel à ce minerai aussi. Donc, la voie médiane entre l'appel au minerai local et l'appel au minerai de la grande mine est réalisée. D'autre part, on voit un phénomène de concentration verticale. Les frères Jean extraient le minerai, se chargent de le fondre à Gier. Ils obtiennent donc un coût moins élevé de la fonte du fait de la suppression de certaines transactions. Avant d'effectuer une brève hiérarchie des hauts-fourneaux savoyards, il faut savoir que la Savoie produit presque le tiers de la fonte qui est produite dans le royaume de Clermont-Sardaigne, ce qui est plus qu'honorable. Un des critères pour classer les hauts-fourneaux, c'est celui de la production totale de fonte qui s'étend d'une année à l'autre, et notamment de la restauration en 1815 jusqu'en 1836. Mais là, ce sont les hauts-fourneaux d'Argentine et des Pierres, en Maurienne, qui font preuve d'une supériorité incontestable sur les autres. Et ils sont suivis par Randan. Ce critère de la production totale est lié à l'opération de la fonte. En effet, le haut-fourneau ne marche pas continuellement. Ce qu'on appelle le roulement du haut-fourneau n'est assuré qu'une année sur deux, et généralement quelques mois seulement durant l'année. Pendant le temps de repos, on répare le haut-fourneau et on assure l'approvisionnement en matières premières. À Épierre, par exemple, on fond pendant plus de 8 mois, ce qui est vraiment exceptionnel pour la Savoie à cette époque. Enfin, vers la fin des années 1830, c'est le haut-fourneau de Gier qui va devenir le premier haut-fourneau savoyard et il sera relayé par celui de Cran. De cette fonte, on va l'affiner pour en faire du fer. La Savoie, là, ne réalise pas d'aussi bons résultats qu'avec la fonte, mais heureusement, si une déficience est signalée au niveau de la production totale, eh bien, le fer savoyard semble posséder de bonne qualité. Par exemple, en 1851, Grange, qui était un métallurgiste, obtient une médaille à l'exposition de Londres pour la qualité de ses fers. En 1857, Frère Jean et Balmain, du Haut-Fourneau des Pierres, reçoivent une récompense de l'exposition de Paris. On pourrait multiplier les exemples. L'insuffisance de la production est aussi compensée par la diversité des produits qui sortent des usines de fer savoyardes. Ainsi, on fabrique des outils et des fers tranchants de toutes sortes à la rochette. On appelle ça la taillanderie. Des objets sont destinés à la mécanique, sortent des usines de Gier, ainsi que des objets en fer fondu, tels que les balcons, les balustrades, les grilles. Cette production est encouragée par une forte demande. Ainsi, par exemple, on peut voir encore les très belles ferronneries qui ont été intégrées dans l'hôtel qui appartenait au comte Castagnieri de Châteauneuf et qui se trouve dans la rue Croix d'Or à Chambéry. Tamier, l'usine de fer de Tamier, quant à elle, est spécialisée dans les ustensiles de cuisine, tandis que Bellevaux et Hayon, dans les Vosges, livrent leur fer au cloutier des Vosges. Dans l'ensemble, donc, cet handicap de la Savoie est dû à ce qu'il y a trop de petites forges, trop de martinets, qui sont incapables d'investissement. Au contraire, les affineries sont trop peu nombreuses. Seulement 15% des affineries du royaume. Pour le minerai de charbon, les mines de charbon pullulent en Savoie. Mais ceci ne doit pas faire illusion. Peu de ces mines sont vraiment productives, quelle que soit la qualité du charbon, que l'on parle de la houille, de lignite ou de l'anthracite. Pour le lignite, ce sont les mines d'Entreverne, surtout Entreverne, qui se trouvent sur la rive sud-ouest du lac d'Annecy, les mines de la Motte-Servolex, de Sonnaz et d'Arrache qui s'imposent. La production de houille, la vraie houille, est négligeable. Quand on parle de houille au XIXe siècle, c'est le charbon en Savoie. Quant à l'anthracite, ce sont les régions de Maurienne, Tarentaise qui s'imposent. Une très bonne mine d'anthracite à Saint-Michel, par exemple. En tout état de cause, le charbon manque. Il est autoconsommé dans les petites mines. Alors, dès qu'une mine donne des indices de rentabilité, elle est aussitôt sollicitée. Il y a 4 principaux consommateurs de charbon en Savoie à cette époque. les villes, encore que de manière très récente, notamment pour Annecy, les usines de fer et de fonte qui utilisent le charbon sous forme de coke. Le coke, c'est obtenu par la distillation de la houille. Les verreries utilisent beaucoup de charbon pour fondre le sable et les carbonates. Et les usines de gaz, où le charbon est utilisé comme matière première et non pas, surtout comme matière première. Par exemple, l'usine Sainte-Claire à Chambéry, qui elle fait venir son charbon de Saint-Étienne, ce qui prouve bien la pénurie du charbon en Savoie. Par exemple, pour les villes, eh bien, la ville de Chambéry utilise presque exclusivement le lignite de la Motte Cervelès. Ses manufactures, elle s'en sert dans ses manufactures, ses hôpitaux, ses établissements publics. Et l'emploi de ce lignite va se multiplier dans la classe ouvrière avec le rigoureux hiver de 1830. Cette pénurie de charbon est compensée par un produit de substitution, c'est le bois. Et cela va poser un grave problème. Le bois est alors consommé surtout comme sous forme de charbon de bois, dans les hauts fourneaux, les affineries, les forges. Mais il est aussi réclamé sous sa forme naturelle, dans les mines, pour servir d'étai, pour soutenir les galeries. Et son utilisation intensive préoccupe l'administration autant que les maîtres de forge. Il se heurte à sa rareté, ce qui a des conséquences extrêmement fâcheuses pour l'approvisionnement et sur le coût de la production. Il n'y a qu'une partie de la Savoie qui échappe à cette pénurie de bois, ce sont les Bauges. Certaines mines ou certaines usines manquent cruellement de bois, par exemple la mine de la Chapelle. D'autres diversifient leurs sources d'approvisionnement. Ainsi, l'usine de fer de la Bâtie, en Haute-Savoie, autour d'Albertville, à côté d'Albertville, achète du charbon de bois de toute espèce à des particuliers de 9 communes environnantes. Elle s'adresse à 9 communes. En effet, souvent les communes sont réticentes à de trop grosses coupes de bois. Par exemple, voici ce que dit la commune de Mako. Si les habitants de la dite commune étaient exclus de la dite forêt pour la coupe de bois, il ne leur resterait plus de moyens de faire pâture pour leurs bestiaux. Unique ressource sans laquelle ils seraient réduits à la cruelle nécessité d'abandonner leur dit hameau. En conséquence, des recherches sont entreprises pour essayer de restreindre cette consommation de bois. On innove à Gier avec un appareil à air chaud pour torréfier le bois. Des lois sur le bois sont édictées pour éviter une exploitation anarchique de ce combustible. On voit aussi ce souci de protection dans les motifs de l'administration lorsqu'elle refuse ou lorsqu'elle accepte à des industriels de transformer leur appareil de production. Ainsi, à Quintal, les Boki demandent l'autorisation d'ajouter un four à leur fonderie de cloche. Et ils détiennent sans problème l'autorisation, car, voici ce que dit l'administration, ces établissements ne peuvent qu'être utiles et que consommant seulement du coke, il ne porte aucun préjudice à l'économie forestière. Ces économies d'énergie sont impératives. La commune de Landry, par exemple, utilise même l'expression de disette de bois. Quant aux métaux non ferreux, l'histoire de la production du plomb et de l'argent en Savoie s'associe à deux mines célèbres, Peset et Mako. Mako, la mine en haut de la montagne de la Plagne, sont les deux plus productives. Puis il y a la mine des Sarrasins à Meudane, celle de Saint-Jean-de-Maurienne, celle de Servoz, dans le Faucigny, qui ont aussi leur importance, mais qui est toute minime par rapport à ces deux premières. Le plomb, généralement, est accompagné d'argent. C'est le plomb argentifère, ou ce que l'on dit dans le jargon minier, la galène argentifère. Sauf à Servoz, où là, le plomb est mélangé à du cuivre. Une fois extrait le minerai, on le trie, et le minerai de plomb trié, c'est ce qu'on appelle le schlick. Le schlick est fondu aux établissements de Conflans. En 1815, il existe aussi une fonderie à Peset. Et cette production du plomb culmine en 1829, et en 1846, à partir de 1846, elle amorce une grave diminution qui ne va pas s'arrêter. Donc, 1846, c'est bien sûr le commencement où les frontières s'ouvrent. Donc, on comprend très bien. Pour le cuivre, eh bien, est-ce qu'il y avait une faible demande de cuivre à cette époque? C'est peu probable, en raison des besoins de l'industrie mécanique naissante. Est-ce que les quantités extraites étaient trop faibles? On le voit, le réalisme n'est pas toujours absent de ses rêves. Néanmoins, il est établi que la rivière du Chéran roulait des paillettes d'or. Sur ce fait authentique se sont greffées des légendes qui ont été créées, entretenues, amplifiées par la crédulité ou la malhonnêteté de certains. Et là, c'est la grotte des Banges, située en dessus de la colonne de la commune d'Alève, en dessus du Chéran, qui est l'objet de ces assertions. Et toutes ces histoires qu'on pourrait lire, qui sont très passionnantes, décrivent un peu cette grotte comme une sorte d'Eldorado inaccessible. Il est toujours difficile de faire la part du vrai et du faux. Mais alors, en savoir relève davantage du mythe que de la réalité. En fait, malgré des améliorations, les techniques employées dans les mines restent pour la plupart très traditionnelles. Mais la crise, qui est due à l'ouverture des frontières, va précipiter le renouvellement des techniques sidérurgiques. Et on peut dire que la sidérurgie connaît à cette époque un véritable tournant. En revanche, si la crise est l'amplificateur d'un mouvement, eh bien, ce dernier est déjà amorcé, autant au niveau des faits qu'au niveau des volontés, dès les années 1835-1840. Qui sont les patrons des mines? Qui sont les maîtres de forge? Ils exercent une activité dans un cadre, c'est leur activité dans un cadre très particulier, où la concurrence n'est pas toujours le seul moyen de compétition. Il en existe un beaucoup plus redoutable, qui est l'obtention d'un privilège. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais certains sont très importants. Par exemple, il y a des privilèges accordés pour 10 ans, pour 15 ans, qui donnent à leurs bénéficiaires un pouvoir de monopole très important. L'administration seulement devient plus hostile aux privilèges à partir de 1830 et soutient la nécessité d'une certaine concurrence. C'est capital. Les principaux exploitants de mines constituent un microcosme d'où émergent vite quelques noms. Les plus célèbres sont les frères Jean, tout attachés, le nom, les frères Tardy. On faisait toujours de l'industrie minière métallurgique en famille à cette époque. Balmain, Balédier sont les principaux. Il y a d'autres exploitants importants, mais d'un rang secondaire par rapport à ceux que je viens de citer. Il y a des députés. Philibert Barnier, député de l'Isère, est-ce que c'est l'ancêtre de notre conseiller, notre président du Conseil général? Je ne l'affirmerai pas. Léon Brunier, député au Parlement de Turin. Il y a des comtes aussi qui exploitent les mines et les hauts fourneaux. Le comte Castagnéry de Châteauneuf, le comte de Certeau, qui a des possessions vers Meudon, le comte Chevron de la Villette, qui a des possessions autour d'Annecy et de Faverges, un avocat, Grange, des sociétés, la société Le Borgne et Compagnie, qui a des possessions autour de la Rochette, la société Belligabaudan, alors elle, la pauvre, elle n'accumule que des infortunes, et la société Mangellard-Bertolus, qui, elle aussi, a des possessions autour de la Rochette. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est un monde très cosmopolite. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs de formation dans ces gens-là. On pourrait même dire, si on était perfide, où sont les ingénieurs. Et si l'on s'arrête quelques instants à la famille Frère Jean, eh bien, on peut voir qu'ils constituent un véritable empire. Et la part qu'ils prennent dans le duché de Savoie n'est pas du tout une part d'appoint, disons. Louis Frère Jean naît à Lyon, et il est propriétaire terrien, très important, et maître de forge, déjà, avant de venir en Savoie. Il a deux fils, Louis et Benoît, et tous sont domiciliés à Annecy, donc on passe des Savoyards d'adoption. Louis Frère Jean loue en 1816 des forges, des forges vers le Faverges, le Haut-Fourneau d'Augier. Il loue aussi des mines de fer à Cuva et à Saint-Joriot. Il les loue au comte Théophile Chevron de la Villette. Mais rapidement, des litiges et des contestations vont naître dans la lecture du contrat. Par exemple, il érige un haut-fourneau à Cran, et ceci malgré les protestations du comte. Finalement, ils vont se dégager totalement de l'emprise du comte et vont continuer à développer seuls leurs industries. Ils sont à la pointe des techniques minières et sidérurgiques en Savoie. D'ailleurs, l'administration ne s'y trompe pas. Elle leur accorde des privilèges, elle leur accorde des prêts. Les frères Jean sont le fer de lance de l'industrie d'extraction et de l'industrie métallurgique à cette époque. Seulement, les beaux jours ne vont pas durer et en 1846, le 28 juin exactement, une vente importante a lieu à l'hôtel d'Italie à Chambéry entre les frères Jean et Joseph et Jean Tardy. Frères Jean, là, cèdent à peu près la moitié de tout leur patrimoine. D'autre part, en ce qui concerne l'encadrement, la formation des ingénieurs est assurée à l'école des mines de Moutier, qui se situe dans l'ancien séminaire. Pourquoi Moutier? Pourquoi avoir choisi Moutier pour installer une école des mines et non pas une capitale comme Chambéry? Eh bien, cela résulte d'une volonté délibérée. Voici ce que dit le statut de l'école. Éloignés du fracas des grandes villes, les élèves n'auront pas l'occasion d'être détournés de leurs études. Et les montagnes, au milieu desquelles nous nous trouvons, leur présenteront chaque jour des exemples frappants de faits géologiques et minéralogiques qu'on leur exposera. Enfin, les ouvriers. Leur nombre est restreint par unité de production. Dès qu'un centre minier ou métallurgique a plus de 10 ouvriers, c'est un grand centre. Et il existe des centres qui font preuve de gigantisme à l'échelle savoyarde. Pour l'époque, par exemple, Crangevry à côté d'Annecy, avec 400 ouvriers. Pezet, avec 280 ouvriers. Macau, avec 210 ouvriers. Et Saint-Georges-d'Urtière, dont le nombre d'ouvriers oscille entre 200 et 300. Le profil type de l'ouvrier, à cette époque, dans les mines royales, puisque je n'ai eu que des recensements là-dessus, sur les mines royales, donc ce profil type s'identifie à une image traditionnelle. L'ouvrier est pauvre et père de famille nombreuse. Mais il ne faut pas cependant, et je parle des mines royales, dramatiser outrancièrement leurs conditions. Près du tiers, en effet, sont des petits propriétaires terriens, si bien qu'ils sont plus ou moins à l'abri d'une faillite. Mais les mines royales offrent quand même un cadre sécurisant, et on devine la précarité des conditions des ouvriers pour ceux qui travaillent dans les petites mines, et qui n'ont pas... qui ne peuvent pas se replier sur la terre en cas de faillite. Le travail des ouvriers dans les mines est très spécialisé, notamment dans les grandes. Il y a plusieurs sortes d'ouvriers. Il y a les laveurs, les peseurs, les colleurs, les forgerons, les charpentiers, les mineurs, les manœuvres, les bocardiers, les déblayeurs, les casseurs, les traîneurs, les caporaux. À Servoz, par exemple, leur journée est divisée en postes de 8 heures. Pour les mineurs et de 12 heures pour les manœuvres. La discipline est draconienne et ils sont même mis à contribution pour acheter certains matériels avec lesquels ils doivent travailler. Les plus avantagés sont ceux qui travaillent dans les établissements royaux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils bénéficient tout d'abord de l'exemption militaire. Et ceci est valable depuis 1817. Le but de cette mesure est d'assurer à ces établissements un nombre suffisant d'ouvriers. Tout le problème est alors d'éviter les abus. Alors, on veille de façon drastique à l'absentéisme. Le deuxième avantage, c'est la caisse de secours dont bénéficient les ouvriers. On prélève de l'argent sur leur salaire, environ 4%, et dans le cadre des accidents du travail, l'ouvrier a droit aux frais du médecin, a droit à des remèdes, a droit aux frais de sépulture. Ce sont soit des secours gratuits, soit on lui alloue une somme d'argent. La caisse de secours consent aussi des prêts pour le secours aux enfants et aux veuves d'ouvriers morts à la suite des travaux. Mais il faut que la famille soit dans une indigence notoire. C'est l'expression qui est consacrée. Les enfants naturels n'y ont pas droit. C'est un souci moralisateur, on peut en trouver d'autres. Dans les dépenses de la caisse de secours, on relève des dépenses qui sont faites pour les messes à Sainte-Barbe. C'est le paternalisme officiel, c'est la contrepartie. L'État, qui est en l'occurrence le patron, veille à l'éducation de ses ouvriers. Généralement, leur retraite est fixée à 60 ans d'âge ou 20 ans de travaux. Déjà la retraite à 60 ans, me direz-vous, eh bien pas du tout, elle n'est pas automatique. Il faut que l'ouvrier soit reconnu hors d'état de travailler. Et il bénéficiait aussi d'une bonne assistance. Par exemple, j'ai eu un fascicule qui datait de 1835 et qui était signé et écrit par le docteur Trémet, médecin des mines royales. Il a été distribué à tous les ouvriers et voici, il s'intitule « Instructions sur le régime à suivre par les ouvriers des mines royales de la Savoie afin de se préserver du choléra et sur la conduite à tenir si la maladie se déclare ». Donc, ils sont quand même très suivis. Un autre exemple précis, une nommée Apolonine Arnaud est une de ces ex-aveuses de la mine de plomb argentifère de Saint-Jean-de-Maurienne. En 1853, elle écrit à l'administration pour recevoir une aide. Elle a 43 ans et elle a travaillé 18 ans dans la mine de Saint-Jean. Elle est atteinte de plusieurs infirmités qui l'empêchent notamment de se déplacer pour exercer une profession comme domestique. Mais voilà, elle a déjà reçu une aide et son cas n'entre plus dans les statuts. Malgré tout, sa réclamation est appuyée par l'inspecteur général. Il dit « sa dernière chance vu son âge et ses infirmités ». Elle a 43 ans. L'intendant, même l'intendant général, vont appuyer sa demande et elle obtiendra enfin gain de cause. Bien sûr, cette histoire a plus valeur de symbole que de généralité. Autant de circonstances favorables sont rares. Et beaucoup de doléances, les ouvriers se heurtent à des refus. Quoi qu'il en soit, tous ces avantages retirés par les ouvriers dans les mines royales ne transforment pas ceci en paradis terrestre. Le travail demeure très dur, parsemé de risques. Néanmoins, pour être objectif, il faut dire que des garanties sérieuses et inespérées sont données pour l'époque aux ouvriers. Surtout lorsqu'on compare leur sort à ceux travaillant dans les petites mines et les établissements privés. Enfin, je vais très brièvement esquisser une typologie de ces établissements miniers et métallurgiques en Savoie dans cette première moitié du XIXe siècle. Tout d'abord, les petits établissements miniers. Eh bien, il y a des mines, tout d'abord, des mines illégales, des mines qu'on ne déclare pas. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ce sont de véritables grattages anarchiques qui ont lieu sur le sol de la Savoie. Cause d'éboulement, l'ouvrier creuse, le paysan creuse, et dès qu'il rencontre un obstacle, il abandonne la mine, et la mine s'éboule, c'est un gâchis. La vie de ces petites mines connaît de grosses difficultés, des difficultés financières, des difficultés de transport, je ne vais pas tout en parler de toutes, difficultés financières, difficultés des transports, difficultés du fait de l'ignorance des paysans exploitants qui ne sont pas au courant des techniques les plus simples, et difficultés dues aussi aux dissensions entre soit le propriétaire du sol et l'exploitant, soit entre les exploitants. La dernière difficulté, c'est la sécurité. Ainsi, à la Motte Servolex, l'ingénieur visite les mines et il fait un rapport à l'intendant. Celui-ci décide aussitôt de fermer toutes les mines de lignite de la Motte Servolex qui alimentait, ne l'oublions pas, Chambéry. Voici ce qu'il dit. « Je vous assure, monsieur l'intendant, qu'il faut beaucoup de courage pour les parcourir et que l'on se persuade difficilement qu'il y ait des hommes assez téméraires pour séjourner plusieurs heures dans ces souterrains. » Plus loin, il ajoute, « Le besoin de gagner fait affronter le péril. Ces hommes sont d'ailleurs familiarisés avec le danger dont ils ne se doutent pas de l'imminence et de l'étendue. » Ensuite, ces petites mines ont souvent de faibles gisements ou qui sont mal disposés. Passons maintenant aux établissements capitalistes. J'en ai étudié plusieurs, mais je ne peux ici vous parler du plus célèbre, Saint-Georges-d'Urtière. Dans sa longue histoire, qui remonte au haut Moyen-Âge, les paysans ont toujours participé très nombreux à l'exploitation de la mine, ceci jusqu'à l'ouverture de ma période, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle. Mais au XIXe siècle, la mine va connaître un processus de concentration rapide, au détriment des paysans. Déjà, en 1830, plusieurs dizaines de propriétaires sont dénombrés à la mine des Urtières, mais déjà, certains sont plus favorisés que d'autres. En 1853, enfin, l'élimination des exploitants traditionnels au profit des capitalistes est effective. Les bénéficiaires sont des gens que l'on a déjà vus, François Grange, le comte Castagnéry, Balmain, Benoît Frère Jean, Le Borgne. Une fois le minerai extrait à Saint-Jean, à Saint-Georges-d'Urtière, pardon, on le grille, afin de séparer le quartz qui réside dans ce minerai. Je l'ai dit, la mine produit à la fois du fer et du cuivre, mais les deux minerais ne sont pas entremêlés. Les filons de fer côtoient les filons de cuivre, ce qui rend l'extraction facile. Ce sont des enfants qui transportent le minerai au moyen de traîneaux. Un voyageur qui était ingénieur raconte « Ils descendent dans des pentes abruptes en courant avec une rapidité effrayante. » Ce travail pénible était plus ou moins compensé par le fait que les enfants ne venaient à la mine que la moitié de l'année. Vers 1830, la mine de Saint-Georges alimente 9 hauts fourneaux, ce qui est énorme. Mais un désordre considérable régnait parmi la production, malgré la présence de capitalistes très au courant des techniques. Un témoin a dit « Nulle part, je n'ai vu une exploitation aussi barbare, aussi ruineuse que celle de Saint-Georges. Nulle part, on ne voit avancer les travaux par esprit de jalousie et par des méthodes qui n'ont pas de nom. L'État impose donc à la mine un directeur unique qui devra coordonner les travaux des différents exploitants et le directeur va les surveiller. Cette mine va être gravement touchée par l'ouverture des frontières. En 1858, elle n'alimente plus que 4 hauts fourneaux savoyards. Paradoxalement, elle voit se profiler avec espoir l'annexion, alors qu'elle aura à supporter la concurrence avec la généralisation des chemins de fer. Cette mine de Saint-Georges connaît sa pleine prospérité dans la première moitié du XIXe siècle. Elle cumule, en effet, la présence de capitalistes chevronnés. Les paysans qui ne faisaient qu'un travail à temps partiel sont exclus. Donc, cette présence de capitalistes et les bénéfices du protectionnisme. Enfin, et très brièvement, un tour d'horizon des établissements royaux, des principaux. Alors, les établissements royaux, j'en ai signalé quelques-uns, l'école des mines de Moutier, l'atelier de granulation de Moutier, les mines de plomb argentifère de Pezet, de Mako, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Modane et la fonderie de Conflans. Pezet, en tant que premier établissement des mines royales, contribue grandement à l'utilisation des techniques avancées. En effet, il dispose de deux avantages incomparables. Tout d'abord, la présence d'ingénieurs dont l'aide est très précieuse. Et d'autre part, elle bénéficie de la manne de l'État. Dès qu'un problème ne va pas, on fait appel au budget. À Mako, ce qui est intéressant de signaler, c'est la présence d'un canal de flottage. La mine de Mako se situe à la montagne de la Plagne et les laveries se situent en contrebas au hameau de la Roche. Si bien que pour descendre chaque fois le minerai de la Plagne à la Roche, ce n'est pas toujours évident. Alors on a construit un petit canal et on extrait le minerai, on le jette dans le canal et là l'eau le transporte sans encombre jusqu'à la Roche. La fonderie de Conflans, elle draine tout le minerai des établissements royaux et se charge de les fondre, de le fondre. Cette fonderie de Conflans, on la voit encore sur la route qui va à Moutier. Elle s'est spécialisée aussi dans la granulation du plomb, par exemple pour fabriquer des plombs de chasse. Et là, la haute tour que l'on voit encore aujourd'hui de la route, eh bien, cette haute tour, on a pratiqué des ouvertures dedans. C'est pour exposer le plomb à plusieurs degrés en dessous de zéro, à une température de plusieurs degrés en dessous de zéro, ce qui était nécessaire pour la granulation. Et cette tour mesure 30 mètres, car on devait laisser tomber le plomb à partir d'un point assez haut. Enfin, en 1852, l'État se débarrasse de la gestion de ces établissements royaux. Ils sont loués pour 30 ans à Louis Castellazzo et à François Tardy. Ils fondent en 1854 la compagnie franco-savoisienne et ils font entrer des nobles, comme le noble très connu ici, le comte Raoul Costa de Bourgard. En 1856, les établissements sont vendus à cette même société. Cette vente va entraîner la liquidation de la caisse de secours pour le grand malheur des ouvriers. Ils obtiennent la distribution des anciens fonds. En 1865, la compagnie franco-savoisienne cessera ses activités Et vers 1873, l'industrie du plomb n'existera plus en Savoie. En conclusion, deux thèmes principaux doivent tout d'abord attirer notre attention sur cette période. Tout d'abord, cette première moitié du XIXe siècle est une période charnière pour l'industrie minière et métallurgique. Charnière car elle se place entre l'archaïsme et la révolution industrielle. L'archaïsme car, du fait des retards et des anachronismes, le martinet, par exemple, côtoie le laminoir. Mais on sent l'évolution car aux techniques anglaises du XVIIIe siècle, qui commencent de manière importante à s'implanter en Savoie, s'ajoutent des procédés neufs, dont certains savoyards. La Savoie, on peut le dire, par le biais de ses capitalistes et de son administration, multiplie les relations avec l'Europe industrielle. Frère Jean, par exemple, avec le métallurgiste allemand Dufort et le piémontais Mongenet. Despine s'intéresse à l'Angleterre avec le Grand Chemin de Fer du Nord, à la Belgique avec le nouvel ascenseur aux mines Coquerille à Serein, à la France avec l'emploi des meules de grès à l'usine Peugeot-Japy et à la Cornouaille avec ses gisements métallifères, ainsi de suite. Cette époque est charnière aussi du fait des exploitations minières qui évoluent. Une transformation progressive s'effectue. On l'a vu d'une part, les paysans sont évincés, notamment de la mine des Urtières. Et le deuxième événement, c'est l'émancipation, entre guillemets, des frères Jean au détriment de la famille Comtal, chevron de la Villette. Il semble que les vrais industriels semblent pourfendre l'incompétence des paysans et la non-qualification des nobles. Cette période est aussi marquée par le désengagement de l'État, désengagement progressif qui deviendra total. Cela commence en 1810, où l'on privatise les exploitations. L'État n'a plus à décider périodiquement si la concession temporaire doit être renouvelée. En 1822, on assiste à une réaction, mais ce n'est qu'une parenthèse dans le processus historique irréversible. Celui-ci reprend en 1840 avec l'édit royal que nous avons analysé. Et d'autres mesures, comme la diminution des privilèges ou l'assouplissement des échanges commerciaux, confirment cette libéralisation. L'État dessert son emprise et le point d'aboutissement est la cession des industries royales à l'industrie privée. Il n'y a pas de doute que cette première moitié du XIXe siècle est pour la Savoie le temps de la prospérité minière et métallurgique. Mais c'est une prospérité factice. Elle ne va pas résister à l'annexion de 1860 ou avec la confrontation de la masse de concurrents que lui donne la France. On peut dire, pour finir, que cette prospérité minière et métallurgique de la Savoie dans cette première moitié du XIXe siècle va alors s'effondrer à la manière d'un véritable château de cartes.